J'ai une très bonne question pour vous. Quand on a une épreuve, est-ce que c'est parce qu'on n'accomplit pas la volonté de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus encourageantes, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. De nouveau aujourd'hui, on va recevoir un riche enseignement de la part de Dieu, de sa parole. J'aimerais vous encourager à bien écouter les réponses qu'on va recevoir suite aux questions que voici. Qu'est-ce que la vraie communion pour les chrétiens? Quels sont les dons volontaires qui ont de la valeur aux yeux de Dieu? Quand on veut faire un don à une organisation quelconque, qu'est-ce qu'on doit savoir à son sujet? Est-ce que nos épreuves signifient que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu? Quelle est l'importance de la prière et comment devons-nous prier? Comment se fait-il que l'apôtre Paul éprouvait de la paix quand il était en prison, dans les chaînes, dans les tempêtes, dans les naufrages? Est-ce que le rôle des femmes dans l'Église est important? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible une fois de plus et les réponses à nos questions s'y trouvent toutes. Mais avant de les recevoir, demandons à Dieu de nous instruire lui-même à travers sa belle parole. Prions. Oui, Seigneur, on va entendre la voix de ton serviteur, mais on veut qu'à travers cette voix, ce soit vraiment toi qui nous enseigne. Parle à nos cœurs, instruis-nous. Enseigne-moi ce que tu attends de moi. Enseigne à tous tes auditeurs ce que tu attends d'eux. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le serviteur de Dieu doit avoir une attitude humble. Paul ne cherchait pas à prendre le crédit pour le travail des autres. De plus, il était conscient du fait que la gloire va véritablement à Dieu, puisque sans sa grâce, nous ne ferions rien de bon pour lui. Nous avons aussi vu que Paul n'entrait pas en compétition avec d'autres ouvriers dans l'œuvre. Lorsqu'il avait terminé d'évangéliser un territoire, il en choisissait un autre où personne n'avait proclamé la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que le pouvoir de faire des miracles permettait d'identifier les apôtres et les prédicateurs choisis par Dieu dans cette jeune église. De ce côté, il faut faire attention aux contrefaçons. Nous nous sommes aussi demandé si Paul avait fondé l'église de Rome et s'il est allé en Espagne selon son désir. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel pense que oui. Chers amis, débutons notre lecture. Romains, chapitre 15, versets 25 et 26. « Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Avant de se rendre en Espagne, Paul voulait d'abord retourner à Jérusalem afin de remettre à l'Église les dons qui avaient été collectés pour elle en Macédoine et en Achaïe. Paul avait persécuté l'Église de Jérusalem. Il avait participé au martyre d'Étienne et il avait fait périr de nombreux saints de l'Église. Donc, Paul apportait une contribution à l'Église. Le mot « contribution » est une traduction du mot grec « koinonia », qui signifie « communion ». La communion, ce n'est pas se rencontrer, se taper mutuellement dans le dos, mais c'est échanger. Cela comprend échanger des dons matériels, en plus d'échanger au sujet des choses spirituelles et des choses de Dieu. Verset 27. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Seulement les dons faits de bon cœur ont de la valeur aux yeux de Dieu. Paul indique clairement que les chrétiens avaient contribué volontairement à cette offrande. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. C'est le fruit de cette collecte que Paul apporte à Jérusalem. En plus d'indiquer clairement que l'offrande était volontaire, la seule façon de donner qui plaît à Dieu. Il souligne le fait que les païens ont une dette et une obligation morale envers les chrétiens de Jérusalem. Ils avaient reçu l'Évangile d'Israël. Le Seigneur Jésus avait dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jean chapitre 4, verset 22. La proclamation de l'Évangile a débuté à Jérusalem. Donc, la Macédoine et l'Achaïe avaient une obligation envers Jérusalem. Les saints de Jérusalem éprouvaient des difficultés financières à cause de la persécution qu'ils subissaient. La Macédoine et l'Achaïe avaient donc une occasion de rembourser leurs dettes spirituelles en utilisant la monnaie en cours à l'époque. Nous sommes devant l'inverse de ce qui se passe avec nos missions à l'étranger. Ce sont les églises missionnaires qui aident l'église mère. Ceci sera peut-être une chose courante avant longtemps en Amérique du Nord. En effet, si nous continuons à laisser nos richesses nous séparer de Dieu, celui-ci nous séparera peut-être de celle-ci. Ce seront les églises de d'autres pays qui nous aideront. Verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Nous voyons que Paul avait vraiment à cœur de remettre ses dons au sein de Jérusalem. C'est avec enthousiasme qu'il s'est rendu à Jérusalem. Ce voyage le conduisit parmi ses ennemis qui en profitèrent pour le faire emprisonner. Je ne suis pas d'accord avec certains de mes frères dans la foi qui pensent que Paul n'accomplissait pas la volonté de Dieu en faisant ce voyage. Je maintiens toujours que Paul accomplissait entièrement la volonté de Dieu alors qu'il est allé à Jérusalem. C'est ce que nous avons vu lors de l'étude du livre des Actes. Renseignons-nous avant de donner à une organisation. Paul désirait que l'Église de Jérusalem voie le fruit de leurs efforts missionnaires. Je pense que toute œuvre qui collecte des dons doit rendre des comptes à ses donateurs. De même, les chrétiens devraient être très prudents avant de donner des dons à une organisation. Si vous ne savez pas ce qu'elle fait avec son argent, alors vous ne devriez pas lui en donner avant de le savoir. Il est nécessaire d'être prudent lorsque nous voulons contribuer à une cause chrétienne. Avant de donner à une organisation, vous devriez savoir deux choses à son sujet. Premièrement, ce que fait exactement l'organisation. Deuxièmement, est-ce qu'elle proclame la parole de Dieu de façon à toucher des cœurs et des vies? Verset 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Les épreuves ne signifient pas que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Paul sait que c'est avec l'accord et la bénédiction de Dieu qu'il ira à Rome. Il ira dans le cadre de ses fonctions apostoliques. Dieu l'a même averti qu'il serait arrêté à Jérusalem. Et il lui a dit qu'il devrait rendre témoignage devant des rois et des gouverneurs. Donc, Paul ne s'écarte pas de la volonté de Dieu en allant à Jérusalem. De plus, son voyage à Jérusalem, même s'il est fait dans les chaînes, est conforme au plan de Dieu. Le voyage ne semblera pas prospère, mais il accomplira les desseins de Dieu. Lorsque les épreuves arrivent et que le ciel s'assombrit, les enfants de Dieu pensent souvent que c'est une indication qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mes amis, ce n'est pas parce que vous avez des ennuis et que vous vous sentez confus que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. En fait, vos ennuis sont peut-être dus au fait que vous servez Dieu. Si vous vivez tranquille et que rien de fâcheux ne vous arrive jamais, alors il se peut que vous ne marchiez pas selon la volonté de Dieu. Satan cherche toujours à mettre des bâtons dans les roues lorsque l'on prêche fidèlement la parole de Dieu. Verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Je passe un certain temps sur ces versets parce que c'est une section personnelle dans laquelle Paul ouvre à nouveau son cœur. De plus, nous voyons le christianisme du premier siècle à l'œuvre. Nous voyons le côté pratique du christianisme. Dans la première partie de l'épître, Paul a présenté la doctrine. Maintenant, Paul met la doctrine en pratique. Laissez-moi vous poser cette question. Priez-vous avec intensité? Paul fait l'appel à la prière le plus solennel, le plus sérieux, le plus urgent de tous ceux qui sont rapportés dans la Bible. Paul perçoit qu'il court un danger et que son ministère approche d'une période de crise. Il est cerné par des ennemis provenant de toutes parts. Les événements qui s'en viennent montreront que Paul avait raison d'être dans la crainte. Paul demande des prières par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul se rend compte que tout ce qu'il recevrait et qu'il lui arriverait devait venir de la main du Seigneur Jésus. Il invite les croyants de Rome à joindre leurs prières aux siennes. Paul demande aux frères de Rome de prier par Jésus-Christ, de passer par le Seigneur pour intercéder auprès de Dieu en sa faveur. Jésus-Christ est notre grand intercesseur divin. Par l'amour de l'Esprit. Paul parle de l'amour qui est le fruit de l'Esprit et qui unit tous les croyants. Mes amis, nous devrions prier les uns pour les autres. À combattre avec moi. Le mot grec traduit combattre est puissant. C'est de ce mot que vient le mot agoniser. Paul invite ses frères dans la foi à agoniser avec lui. En ma faveur. Paul demande des prières pour sa sécurité personnelle afin d'aller vers eux avec une pleine bénédiction de Christ. Mes amis, nous avons besoin de prier ainsi, pas machinalement en énumérant les items sur notre liste de prières. Pour l'apôtre Paul, la prière était un combat qui se fait dans l'agonie et il y mettait tout son cœur. Il saisissait Dieu par le collet pour avoir son attention. C'est ce genre de prière dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos églises. Vous et moi avons besoin de chrétiens qui savent comment prier pour nous. Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. La prière de Paul comprend deux requêtes. Sa vie était en danger à cause des incrédules de la Judée, c'est-à-dire des chefs religieux. Paul désirait être délivré d'eux. Ensuite, l'Église de Jérusalem aurait pu hésiter à accepter l'aide des non-juifs. Paul désirait ardemment que les croyants de Jérusalem acceptent cette aide. Mes amis, les deux requêtes furent accordés. Quelqu'un peut s'objecter en disant « Oui, mais Paul a été arrêté. » C'est vrai, mais il fut immédiatement remis entre les mains des Romains et il a pu comparaître devant des rois et des gouverneurs. Finalement, il a comparu devant César, à Rome, ce qui était l'accomplissement de la volonté de Dieu en ce qui concerne l'apôtre Paul. Verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Ce verset est la conclusion de la requête de prière de Paul. La prière fut répondue. Paul eut la vie sauve à Jérusalem. L'Église de Jérusalem a accepté le don, et il est venu à Rome, malgré qu'il a dû d'abord faire un séjour de 2 ans dans la prison de Césarée, qu'il a vécu un naufrage et qu'il portait des chaînes à son arrivée à Rome. Paul est cependant arrivé dans la joie du Saint-Esprit. Oh, combien nous avons besoin d'une telle joie de nos jours! Est-ce que Paul a trouvé du repos à Rome? Bien, nous pourrions débattre la question. Il a trouvé tout cela, et même davantage au-delà de Rome et de l'Espagne, lorsqu'il est arrivé en présence du Seigneur Jésus. À la fin de sa vie, il a écrit à Timothée, son fils dans la foi. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Ce chapitre se termine avec une bénédiction de Paul. Verset 33. « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » L'expression « le Dieu de paix » démontre que Paul a éprouvé une paix en prison, dans les chaînes, dans les tempêtes et lors des naufrages. « Je prie afin que vous et moi expérimentions cette même paix dans nos vies. » Dans ce dernier chapitre, nous voyons l'Évangile en opération dans l'Empire romain au cours du premier siècle. Mon cœur se réjouit en voyant qu'il y avait des chrétiens dans l'Empire romain païen, que des témoins du Seigneur Jésus déambulaient dans les rues de ces villes avec la joie du Seigneur dans leur cœur. Ce chapitre est l'un des plus révélateurs que nous ayons dans l'Épître aux Romains. Paul a descendu les sommets doctrinaux pour poser le pied sur les pavés des rues de Rome. Là, nous voyons le christianisme en action. Les grandes doctrines que Paul a enseignées ne sont pas des sondes venues de l'espace, ce sont des véhicules qui fonctionnent dans les rues romaines. L'Évangile a transformé des vies dans leur réalité quotidienne. Ce chapitre ne devrait jamais être négligé lorsque nous étudions l'Épître de Paul aux Romains. C'est à notre détriment que nous négligeons son étude. 35 personnes sont nommées dans ce chapitre. Tous étaient des croyants habitant Rome ou accompagnant l'apôtre Paul. Cette épître fut probablement écrite de Corinthe. Dans ce chapitre, un amour mutuel est exprimé, ce qui était contraire à la philosophie et aux pratiques romaines. C'est malheureusement contraire à ce que nous voyons dans certaines églises contemporaines. Ces chrétiens étaient différents. Il ne faut pas s'étonner que Rome se soit émerveillé devant les chrétiens et se soit exclamé en disant « Voyez combien ces gens s'aiment !» Au début de ce chapitre, Paul recommande Phobé, une sœur dans la foi. Débutons notre lecture de Romains chapitre 16, versets 1 et 2. « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Phobé est la première croyante mentionnée dans cette liste de « héros de la foi ». Elle était d'origine païenne, comme son nom l'indique. Comme nous l'avons déjà dit, il y avait de nombreux croyants d'origine païenne dans l'église de Rome. Phobé fut nommée d'après la déesse grecque Artémise, ou Diane, qui est dans la mythologie grecque. Elle était la déesse de la lune, tout comme son frère Apollo était le dieu du soleil. De nombreux croyants avaient changé de nom à leur baptême, mais Phobé avait gardé le sien pour une raison quelconque. Le rôle des femmes dans l'Église est important. Phobé a porté la lettre de Paul à Rome. Il semble qu'elle jouait un rôle important dans l'Église. Donc, c'était une femme douée de plusieurs façons. Elle est appelée diaconesse de l'Église de Sancheré. Diaconesse est un mot grec qui signifie servante. Et Sancheré est le port de Corinthe. Il est situé à environ 15 kilomètres de la ville. Il semble que Paul ait écrit l'Épître aux Romains alors qu'il était à Corinthe, et Phobé, qui était une femme d'affaires, a dû l'apporter à Rome. Le fait que le mot grec « diakonos », serviteur, soit utilisé, révèle que les femmes avaient des rôles prééminents dans la jeune Église. Je pense que nous ne verrions pas de femmes occuper le poste de pasteur dans les églises, ce qui est interdit en passant dans les Écritures, si nous leur avions donné la place qui leur revient au sein des églises. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, pense qu'il devrait y avoir des diaconesses dans les églises et qu'elles devraient avoir le même droit que les hommes et même de siéger au conseil des églises. J. Vernon McGee précise que l'Église pourrait profiter du point de vue et de la sensibilité des femmes. La femme possède une intuition que les hommes n'ont pas. Elles perçoivent des choses qu'ils ne perçoivent pas. Par exemple, elles peuvent observer une parfaite inconnue et en 5 minutes apprendre beaucoup à son sujet en observant son habillement et ses manières. Par contre, un homme peut bien voir des choses dans un individu par la voiture qu'il conduit. Une église a besoin du point de vue féminin. Paul a préféré confier son épître à Phobée plutôt que de se fier au transport public. Rome avait un service postal, mais il était lent. Paul est sur le point de partir pour Jérusalem et il remet la lettre à la diaconesse Phobée. « Je vous recommande Phobée, notre sœur. » Paul recommande Phobée aux croyants de Rome. C'est la première femme mentionnée dans ce dernier chapitre de l'Épître. À la prochaine émission, nous verrons une liste de personnes que Paul salue. Ces personnes ont contribué énormément par leur temps et par leur énergie dans la jeune Église. Ces hommes et ces femmes provenaient de toutes les couches de la société. Ils étaient des piliers dans l'Église, même si ces gens n'avaient pas de poste ou de titre. Paul connaissait de nombreux chrétiens de Rome, même s'ils n'avaient pas encore mis les pieds dans la ville. Ensuite, des personnes qui accompagnent Paul saluent les croyants de Rome. Ces personnes se sont aussi rendues très utiles à l'œuvre de Dieu. Permettez que je vous pose une question. Si l'apôtre Paul était là aujourd'hui et qu'il œuvrait parmi nos églises, mentionnerait-il votre nom dans une de ses lettres? Entendrait-il parler de vous parce que vous êtes actif dans votre église? Il m'arrive de demander des références au sujet de telle ou telle personne qu'on m'a recommandée. Les gens en parlent en bien. Elle est impliquée dans son église locale et elle a un bon témoignage. Elle a mis ses dons au service de l'Église et elle est reconnue pour posséder ses dons. Ces personnes n'ont pas nécessairement des postes de leader ou d'enseignant dans l'Église, mais elles savent se rendre utiles. Pourrait-on rendre un bon témoignage de vous à cause de votre service chrétien? Ou êtes-vous un chrétien du dimanche qui ne fait que réchauffer le banc ou la chaise sur laquelle vous êtes assis? Êtes-vous là lorsqu'on a besoin de bras et de volontaires pour aider à un projet ou une activité de votre communauté chrétienne? Si j'avais besoin d'un électricien ou d'un plombier pour aider à l'œuvre du Seigneur, je saurais qui demander. Si j'ai besoin d'aide pour rédiger un document, je sais à qui m'adresser. Je sais qui approcher parce que j'ai vu ces personnes servir avec zèle et joie dans le passé. Ces personnes sont reconnues pour leurs dons. Lorsqu'on a besoin d'aide, d'un coup de main, pense-t-on à vous? Sait-on que vous avez des dons, que vous servez avec zèle et avec joie? Écoutez ce verset tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, précise ce texte. Paul n'avait pas besoin de donner de nombreux détails au sujet des personnes qu'il a mentionnées. Les chrétiens de Rome les connaissaient, car ils étaient au service de l'Église. Êtes-vous au service de votre Église, qui est le corps de Christ? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 16, versets 1 à 27.
Merci beaucoup, Régent. Quel bon enseignement on reçoit au cours de cette émission, jour après jour. Aujourd'hui, c'est la prière qui a le plus retenu mon attention. Paul a demandé des prières par notre Seigneur Jésus-Christ. Il voyait que tout ce dont il avait besoin pour remplir son ministère venait de la bonne main de Dieu. Et il a demandé aux croyants de prier pour lui. Mes amis, personnellement, le plus bel encouragement qu'un frère ou une sœur dans la foi puisse m'apporter, c'est de me dire qu'on prie pour moi. et ceux qui prient pour moi s'informent toujours où j'en suis concernant les requêtes que je leur ai partagées pour qu'ils les amènent au trône de la grâce de Dieu. J'ai une amie dans mon église, une sœur en Jésus-Christ, bien sûr, sur qui je sais que je peux toujours compter quand je lui demande de prier pour moi. Et presque chaque fois que je pars pour une campagne d'évangélisation ou pour un déjeuner de l'espoir ou pour aller faire nos émissions de radio, quand je suis à environ une demi-heure de chez moi, j'appelle cette amie sur mon cellulaire pour lui dire ce que je m'en vais faire et pour lui demander de prier pour moi. Et je suis certaine qu'elle va le faire parce que chaque jour, elle met un temps à part dans le but d'intercéder pour des besoins spécifiques dans l'Église, incluant les miens. Je me sens vraiment privilégiée de savoir qu'elle prie pour moi, qu'elle participe au combat avec moi. Et je suis encouragée, simplement en sachant que je n'avance pas dans cette guerre spirituelle toute seule, mais avec des gens qui se tiennent à la brèche. Dans le 22e chapitre du livre d'Ézéchiel, au verset 30, Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays, afin qu'il ne le détruise pas, mais qu'il n'en trouve pas. Mon frère, ma sœur, es-tu de ceux qui se tiennent à la brèche en faveur de ton pays, de ceux qui prient avec acharnement pour que les gens de ton pays soient sauvés, qu'ils reçoivent le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ? Tu n'as peut-être pas l'occasion de te déplacer comme tu le voudrais pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. Mais tu peux m'accompagner, ainsi que tous ceux qui vont proclamer le salut, en priant pour nous avec acharnement, sans relâche. Et tu vas participer à la bénédiction quand ces gens se convertiront, quand ils recevront le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Aussi, je t'encourage à prier pour ta famille, tes voisins, tes collègues, tes compagnons de classe, pour les dirigeants de ta région, de notre province, de notre pays. Dieu veut les sauver eux aussi, et il le fera en réponse à nos prières, à tes prières. Jésus a dit lui-même dans le 21e chapitre de l'Évangile de Matthieu, au verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et on sait que quand on lui demande de sauver des gens, qu'on fait une prière selon sa volonté. Mes amis, prions les uns pour les autres. Que Dieu nous aide à ne jamais négliger cet aspect de la vie chrétienne qui, j'en suis certaine, est le plus important, puisque peu importe ce que le Seigneur nous confie, à quel ministère on est appelé, sans lui, on ne peut rien faire. Même Jésus a prié son Père quand il était sur le point d'aller donner sa vie sur la croix pour nous. Et ensuite, quand il a trouvé ses disciples endormis, il a dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillons et prions, frères et sœurs. »
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.